Bonjour mes frères et sœurs. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'Exode au chapitre 17. On ouvre le Saint-Livre et on va regarder ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, il y a des combats aussi, même quand on est dans le désert. Parce qu'on peut être dans le désert et dans la volonté de Dieu. Exode chapitre 17, verset 8. Vous prierez pour cette réunion, pour ces réunions sur le corps de Christ ? Je vous demande de le faire. J'ai failli la faire ce matin et hier j'ai eu un combat terrible. L'Église n'est pas prête. Beaucoup de chrétiens, mais ça, je le répète, ce n'est pas votre faute, c'est notre faute à nous les pasteurs. On s'est complètement loupé par rapport à l'enseignement sur le corps de Christ. Et je le sais, le Seigneur me l'a montré. Donc je vous demande de prier pour moi, pour que vraiment les chrétiens comprennent ce qu'est le corps de Christ. Et je vous assure que beaucoup d'hommes, de femmes seront heureux lorsqu'ils auront compris ce que c'est être membre. Parce qu'un membre, vous savez, s'il n'est pas attaché au corps, je peux vous dire qu'il est en grande souffrance, croyez-moi. Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dans une version, j'ai lu, qui est bien d'ailleurs, ses mains restèrent froides jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vous gardez ce texte, s'il vous plaît, et nous allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Luc, chapitre 8, une situation pareille, une situation qu'on rencontre régulièrement. Là, c'est une tempête, mais qui représente très bien ces moments difficiles que l'on traverse. Vous avez déjà traversé une tempête ? Dans le foyer, au travail, dans l'église ? Ça vous est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Voilà la question que Jésus a posée à ses apôtres dans une situation difficile. Il leur a pas dit « Vous aviez bien fait de me réveiller ?» Il leur a dit « Où est votre foi ?» Ce qui suppose qu'ils auraient eux-mêmes pu calmer cette tempête. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Et je vous rappelle que Dieu n'a pas changé. Luc chapitre 18. Encore une question. Ce matin, il a été question aussi d'une question dans un don spirituel. Dieu pose des questions. Dieu pose des questions, pas pour nous embarrasser, mais pour nous aider à faire le point. Luc 18, une parabole, une vérité donc, une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. J'avais demandé dans une église un jour, c'est quoi une parabole ? Et un enfant m'a dit, c'est une antenne. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ça, c'est des mots qu'on aimerait ne peut-être pas voir dans la Bible, mais c'est écrit. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, je vous rappelle, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question, elle est adressée à tous les chrétiens de tous les siècles depuis que Jésus est venu sur la terre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il nous est demandé, dans la parole de Dieu, de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Ce matin, je pense qu'un homme a dû être interpellé. Il est fort possible que tous les dons spirituels s'adressaient à la même personne. Pour vous dire comment Dieu fait converger les choses pour parler à un homme et à le sortir de son orgueil. Et Dieu parle. La Sainte Cène nous permet de nous examiner vraiment et de bénir Dieu pour ses invitations qui sont continuellement répétées. Nous avons continuellement la grâce d'avoir un Dieu qui nous permet de nous examiner pour savoir si on est dans la foi. C'est écrit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même, édifiez-vous vous-même si l'Église est un corps et si l'Église doit travailler ensemble, car les chrétiens qui ne travaillent pas ensemble ont été complètement aveuglés, ça c'est sûr, certain. J'y reviendrai dans l'enseignement sur le corps. Mais mes frères et sœurs, il y a aussi un travail personnel, un travail individuel. Éprouvez-vous vous-même quand on prend la Sainte Cène, même si tout le corps est là, il y a quand même une responsabilité personnelle de dire mais où j'en suis? Si tu me poses la question, ce matin il y a eu un don, mais où es-tu? Bien sûr que quelqu'un de léger va dire ben je suis 9 rue Saint-Guillain. Vous comprenez bien que c'est un peu plus sérieux que ça. Où es-tu spirituellement? Ce matin, tu es là, tu écoutes, tu participes plus ou moins, tu entends un sermon qui va te convaincre ou t'aider plus ou moins, mais où en es-tu de ta foi? Si Jésus pose la question, il doit la poser et c'est à toi de répondre. Quand le Fils de l'homme viendra te chercher ou nous chercher, est-ce qu'il y aura la foi dans ton cœur? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Ça dépend pas de moi, ça dépend pas de vous, des autres, ça dépend de votre piété personnelle. Cette foi, elle doit grandir, vous savez comment la foi grandit? La foi, elle vient, comment elle vient la foi? Elle vient par la parole de Dieu, vous le savez. Si vous rencontriez le Seigneur dans la rue et que vous lui dites, oh Seigneur, fais-moi grandir la foi, il vous dirait, lis la Bible. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'un cœur est ouvert, la foi grandit. Le juste, il vit par sa foi. Béni soit Dieu pour la foi des autres. Alléluia. Béni soit Dieu pour la communion fraternelle. C'est bien la communion fraternelle? Est-ce que c'est bien? Vous avez des frères et des sœurs que vous aimez? Vous aimez la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est un immense bienfait. Un immense bienfait. La communion avec Dieu, c'est encore plus grand. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous sachions exactement comment lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons, si vous voyez, si quelqu'un qui analyse peut dire que ce matin, toute la première partie du culte, c'était sur la grâce. Vous avez remarqué? Les chants, la façon dont Jonathan a présenté les chants, les dons spirituels, même s'ils étaient très sévères, conjuguaient la grâce. Et c'est la grâce qui relève, c'est la grâce, etc. La prédication, c'est sur la foi. Bon, je vous le dis parce que c'est peut-être mon travail, mon pli de pasteur. Mais voyez, et là, c'est sur la foi. Pourquoi? Parce que de toute façon, la grâce doit se conjuguer avec la foi. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc cette grâce, aussi grande soit-elle, aussi infinie soit-elle, est merveilleuse et on le comprendra certainement, comme M. Gisquet a dû le comprendre il y a quelques jours. Mes frères et sœurs, on le comprendra, mais en attendant, mes frères et sœurs, la foi doit absolument grandir. Quand le Fils de l'homme viendra te chercher, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Pas la croyance, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, la croyance. Combien de croyants n'ont jamais rien compris, sont plus dans le doute? Parce que des moments de doute, est-ce qu'il peut y en avoir des moments de doute? Voilà, bon, mais s'il y a plus de doute que de foi, vous comprenez bien que ça va commencer à être un problème. Le doute devrait être une, comment dirais-je, presque une épreuve pour nous faire chercher. J'ai perdu mes clés, je doute ou je les ai mis, ça m'arrive souvent. Ça vous arrive souvent de perdre les clés? À qui ça arrive? Moi, ça m'arrive souvent. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche. Et je finis par les trouver. Voilà, le doute me pousse à la recherche. Le doute, ce n'est pas un péché comme l'incrédulité, qui devient un péché. Le doute, ça peut être un moyen de dire, bon, mais je dois me mettre à chercher. Il y a un truc que je n'ai pas compris, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, je ne comprends pas par rapport à ces mystères. Eh bien, lisez avec une concordance tous les textes qui parlent des mystères, et vous allez voir que quand on va faire l'étude sur le corps de Christ, ça va être d'une simplicité totale, parce que vous aurez pris les devants sur cette affaire. Donc, quelle sorte de foi j'ai ? Quelle foi j'ai ? Est-ce qu'on est capable de dire, mais la foi, oui, ben je crois en Dieu, je suis là, j'aime Jésus, mais ça veut dire quoi ? Vous voyez, on pourrait être très, très négatif presque même. Quelle sorte de foi j'ai ? Est-ce que j'ai cette foi qui combat le bon combat de la foi ? Ou est-ce que tous mes combats, je suis tout le temps en bas, tout le temps dans les choses, comment dire, le moral dans les chaussettes ? Ou est-ce que je connais cette foi qui fait reculer les démons, cette foi qui amène une église à connaître ce qu'est une maison de prière ? Il y a des églises, il y a des chrétiens, ils sont incapables. Mais je vous le dis avec en toute objectivité et avec beaucoup de sérieux. Si l'église ne va pas bien, je parle de l'église en général, ce n'est pas la faute chrétienne. Je suis sérieux. C'est notre faute. Si on avait vraiment cherché Dieu, si on avait cherché vraiment la pensée de Dieu, si on avait vraiment cherché l'Éternel, les chrétiens ne seraient pas dans l'état où ils sont aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, priez pour les pasteurs, pour que l'on puisse communiquer la pensée de Dieu à l'Église. Parce que c'est trop facile de culpabiliser les gens, c'est trop facile de les rabaisser, et vous ne priez pas assez, et vous devriez venir à l'Église, tout ça ne sert strictement à rien. Ce qui est important, c'est que notre foi soit agréable à Dieu. Et la question, il la pose, au moins ayons le respect du Seigneur de répondre. Ne me répondez pas à moi, ce n'est pas important, mais répondez-lui à lui. Quand je reviendrai te chercher, quand je reviendrai te reprendre, parce que ton temps sera fini sur la terre, est-ce que tu auras la foi ? Parce que quand le Fils viendra, je peux vous dire que l'apostasie, elle est dans l'Église. L'iniquité, elle s'est emparée de plein de chrétiens, c'est écrit, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc ce sont des choses qui sont là, elles n'arriveront pas, elles sont déjà là, on est dans ces temps d'iniquité, on est dans ces temps d'apostasie, mais il peut y avoir des vainqueurs, et je souhaite que dans l'assemblée où Dieu nous a placés, il y ait beaucoup de vainqueurs quand Jésus reviendra nous chercher. Ferez-vous partie de ces vainqueurs ? Alors vous n'allez pas dire comme des gens superficiels, ben c'est Dieu qui choisit, non. Dieu, il a déjà choisi, croyez-moi, Dieu veut que vous soyez un vainqueur. Il l'a prouvé, je pense, au calvaire, il veut que vous soyez un vainqueur, il veut que vous puissiez dire, cette foi, je veux l'étayer, je veux l'améliorer, je veux qu'elle grandisse, oui, je veux travailler dans le corps, aimer le corps. Vous savez, le diable, sa spécialité, c'est de diviser. Sa spécialité, c'est de nous séparer, alors qu'on est tous complémentaires et qu'on est tous à même de recevoir les uns des autres. Quand on est dans le corps, on donne. Quand on n'est pas dans le corps, on ne reçoit pas. Et je vous assure, je suis convaincu que nous passons à côté de plein de bénédictions parce que nous ne donnons pas ce que nous avons reçu. Et dès qu'on se met à donner, eh bien on est béni. Vous n'avez jamais expérimenté une réunion de prière où vous êtes venu fatigué, ça n'allait pas, un quart d'heure pour se garer. Ça, c'est la première épreuve, en principe. Un petit quart d'heure pour se garer, on est tous à la même enseigne. Il y en a qui ont une foi plus grande. Seigneur, donne-moi une petite place quand j'arriverai. Bon, mais en fait, à part ça, on est tous quand même... Vous l'avez déjà fait, ça ? Demandez au Seigneur qu'il vous donne une place ? Coquin que vous êtes. Et moi, j'en ai pas. Demandez pas. Au moins, moi, j'en aurai une place. Mais mes frères et sœurs, quand on vient, ça vous est jamais arrivé ? Vous êtes venus fatigués, épuisés, peut-être même découragés. Vous êtes venus donner, vous donner, prier pour les autres et vous êtes repartis fortifiés. Ça vous est jamais arrivé ? Pourquoi ? Parce que c'est une loi du corps. Voilà, ça c'est une loi qu'on abordera lorsqu'on abordera ce qu'est vraiment le corps de Christ. Mais moi j'ai honte. Si vous saviez comment j'ai honte. Si vous saviez comment j'ai honte. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Comment j'ai honte et qu'il m'a fallu avoir un carton physique pour comprendre combien on doit chercher la pensée du Seigneur. Et on a perdu du temps, on perd du temps. Mais enfin, on a un Dieu qui est capable de remplacer les années qu'on a perdues. C'est écrit ça dans la Bible, « Je vous remplacerai les années qu'ont volé la sauterelle, l'asile, le grillon, tout ça. » Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Pendant longtemps, il refusa. Voilà, il y a un combat. Pendant longtemps, il refusa. Ah, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les épreuves, elles peuvent durer longtemps. Ça vous plaît ? Non ? Ça vous plaît pas ? Eh bien, c'est pareil. Ça peut durer longtemps les épreuves. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pendant longtemps, il refusa. Je vous répète, c'est Jésus qui parle. Chaque mot est à propos. Chaque mot est important. Pendant longtemps, il refusa. Même si cette veuve, elle avait le droit pour elle. C'est pour ça qu'elle a persévéré. Même si nous avons le droit pour nous. C'est-à-dire si nous avons dans la parole de Dieu des promesses qui nous ont touchés. Il n'y a pas des paroles, des promesses qui vous ont touchés dans la Bible? Tiens, j'ai lu ça. Oh, c'est pour moi. Mais le temps a passé. Longtemps, le temps a passé, et puis on a commencé à dire, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que cette promesse, elle était vraiment pour moi? Ça vous est jamais arrivé en question de mettre, mais c'est, je me suis peut-être planté, c'était pas pour moi, cette promesse. Oui, le diable, il fait tout pour nous enlever des promesses. Nous avons le droit, lorsque nous avons lu dans la parole de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mes frères et sœurs, c'est ça, j'ai une parole de Dieu, elle est pour vous. Et je dois la saisir. Je ne me relâcherai pas. Cette promesse, Seigneur, tu me l'as donnée dans un désert ou dans un moment facile, qu'importe. Mais Seigneur, cette promesse, je la serrerai dans mon cœur. La foi, c'est ça. Une foi qui persévère, une foi qui s'embarrasse pas parce qu'il y a longtemps que ça dure. Les non et les refus, ça existe dans la parole de Dieu. Dieu, parfois, il dit non. Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Mais Dieu peut dire non. Dieu peut dire attends. Pendant longtemps, il refusa. Comme c'est une parabole qui dit dans un contexte avec une question sérieuse, ça vaut vraiment la peine de dire, eh ben, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps que ça dure. Mais ça fait rien. Moi, je veux une foi qui soit agréable à Dieu. Et cette affaire, je vais l'utiliser, eh bien, pour surmonter le mal par le bien. Oui, ça fait longtemps que j'attends un mari. Est-ce que ça peut arriver, ça, qu'une femme souffre longtemps de ce que le mari tarde? Est-ce que ça peut arriver? Mais Dieu ne se trompe pas. Mais je dis ça sérieusement. Je le dis parce que nous, on est là coincés dans nos analyses. Mes frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais. Vous entendez? Le Seigneur, il ne se trompe jamais. C'est nous qu'on se trompe. C'est nous qu'on tord les choses. C'est nous qu'on met le frein à main. Nous avons un Dieu qui sait ce que nous devons traverser. Et quand l'Église sera enlevée, mes frères et sœurs, ayons cette intelligence d'avoir une foi vivante, une foi qui combat, une foi qui ne se démonte pas. Vous avez vu quand Moïse apprend qu'il va y avoir un combat, que l'ennemi vient, Amalek, il vient, Amalek, il a levé la main contre Dieu. Je vous avais demandé de ne pas perdre la page, je ne sais pas si vous y êtes toujours. Dans l'Exode, il y a cette affaire, voyez. Amalek est l'image de Satan qui a levé la main contre le trône de l'Éternel. En plus, il est dit qu'il y aura un combat de génération en génération. S'il y a un combat, mes frères et sœurs, jusqu'à notre mort, il y aura un combat spirituel. Mais ce combat, il faut que ça soit un bon combat. C'est pour ça qu'il ne faut pas le vivre seul. Moïse, c'est pas n'importe qui, Moïse. Et heureusement qu'il avait des frères avec lui. Oui. Est-ce que, vous voyez, parce que tout Moïse qu'il était, s'il avait été seul, au bout d'un moment, eh bien, il n'aurait pas pu le tenir ses bras. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils sont des chrétiens, comme je l'ai dit dans les annonces, ces chrétiens papillons. Ils se retrouvent tout seuls. C'est sûr qu'ils ont la liberté d'aller où ils veulent, la latitude de faire ce qu'ils veulent. Tout ça, ça paraît très intéressant. Mais ce n'est pas l'image du corps de Christ. Le corps de Christ, on est ensemble. Il faut qu'il y ait des Aaron, il faut qu'il y ait des Hur qui soient là, qui nous soutiennent. Prie pour moi, je suis fatigué. N'ayez pas honte de dire que vous êtes fatigué. Des fois, on a honte de demander de l'aide. On est ridicule. Qu'est-ce que ça coûte de dire, moi, combien de fois j'ai dit aux frères, priez pour moi. Surtout quand on se fait confiance. Est-ce qu'on peut se faire confiance dans la maison du Seigneur? C'est prie pour moi, je suis fatigué. Bien sûr, si je suis fatigué à cause du péché, bon là, c'est peut-être... Mais je peux être fatigué parce que la vie de tous les jours fait que le travail me fatigue. Est-ce qu'il y a la fatigue du jour? Est-ce que la Bible parle de la fatigue du jour? Oui, elle en parle. Et Aaron, il a été soutenu. Il y a un combat. Il y a ceux qui sont sur la montagne, qui sont là, dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui sont dans la vallée, qui travaillent. Et si nous avions tous la pensée de Dieu, nous saurions exactement chacun ce que nous avons à faire. Et ça, c'est peut-être la priorité des priorités. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as placé ici, à Toulouse, dans cette église, dans cette assemblée. Voilà, je suis là, je suis encore en vie, tu me donnes encore quelques années à vivre, ou jusqu'à ton retour, j'en sais rien. C'est pas grave, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans le corps. Quelle grâce d'être dans le corps. de pouvoir dire, je veux être là, je veux soutenir le frère, je veux soutenir la sœur, je veux soutenir les stagiaires. Moi, quand je vois tous ces frères qui se sont convertis ici, franchement, ça me fait plaisir quand même. Quel bonheur! Ça vaut pas la peine de travailler dans ce sens. Mes frères et sœurs, je veux soutenir. Ah, Moïse, eh ben, t'es Moïse, tu te débrouilles. On peut pas parler comme ça. Dans le royaume de Dieu, on prend soin les uns des autres. Si vous faites partie de ceux, écoutez bien, ça c'est grave. Si vous faites partie de ceux qui dites ou qui pensaient, je le résume, chacun pour soi, je peux vous dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Le chacun pour soi, ça vient de l'enfer. Dans l'église, c'est pas chacun pour soi. Dans l'église, c'est les uns les autres. Si vous êtes dans le chacun pour soi, vous êtes déjà mort, spirituellement. Moi, j'en ai assez avec mes problèmes. Moi, je prie tout seul, chez moi. Écoutez-moi, je vous dis que ça va pas. La Bible dit pas prier chacun pour soi, prier les uns pour les autres. Même si vous ne pouvez pas venir à toutes les réunions. Ce n'est pas une question de présence à toutes les réunions. C'est une question de piété. Savoir ce que Dieu demande. Et Aaron, Hur, ils vont soutenir. Vous avez vu quand même, ça fait peur. Vous vous rendez compte, quand Moïse levait les mains. Non mais je ne sais pas. C'est pas de la poésie. Hein. Ce n'est pas de la philosophie chrétienne. Ça n'existe pas ça d'ailleurs. C'est la vérité. Quand Moïse levait les bras, ne vous amusez pas maintenant à dire, il nous a dit qu'il fallait lever les bras. Je sais comment il faut prier, j'ai un truc. Maintenant, alors vous allez peut-être un peu vous muscler, mais ça ne changera rien du tout. Mes frères et sœurs, lever les bras, c'est une image de la victoire. Mes yeux sont tournés vers le Seigneur. Vous pouvez être à recroquevillé sous votre couette et avoir les bras levés, c'est spirituel. Je m'attends à Dieu, je lui fais confiance. Il m'a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et bien je lui ferai confiance. Je ne peut pas ne pas lui faire confiance. Il est digne de confiance. Il y a un combat. Amalek, il a levé la main contre Dieu. Le diable, c'est exactement la même chose. Il a levé la main contre Dieu. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ne faisons pas partie de ceux qui vont lever la main contre Dieu. Faisons partie de ceux pour qui Dieu lèvera la main pour nous. C'est quel roi? C'est Ozias ou Zacharie? Il y a un roi qui a dit, donnez la main à Dieu. Elle est belle cette image, hein? Donner la main à Dieu. Voilà ce qu'on veut faire dans cette église. On va donner la main au Seigneur. On va avoir une foi qui va grandir, une foi qui va se fortifier. Oui, quand le Fils de l'homme viendra, je trouverai la foi. Parce que le contexte de la parabole là qu'on a lu, c'est un problème. Le contexte, c'est l'injustice. Il y a plein d'injustices. Vous avez subi des injustices? Qui n'a pas subi d'injustices? Au boulot, même à la maison déjà. On préférait ma sœur. Non mais, vous n'avez pas vécu ça? Moi je me rappelle quand j'étais petit, tous les 15 jours il y avait un repas de famille. Et mon père il était très très fin. Et il disait toujours, en parlant de mon frère aîné, ah lui il est intelligent, lui il ira loin. En parlant de ma sœur jumelle, il disait, ah elle est intelligente, lui il travaillera avec ses bras. Il écoute rien, il voit rien. Comment ça il parlait? Il s'est loupé, je travaille ni avec la tête, ni avec les bras. Je travaille avec le cœur. Voilà. Et je lui ai dit à mon père, tu t'es planté. Voilà. Je suis content chaque fois que je peux le lui dire, puisque je l'ai encore. Mes frères et sœurs, nous voulons une foi qui grandisse. Alléluia. Dans quel état se trouve votre foi ce matin? Est-ce que vous êtes content de votre foi? Est-ce que vous êtes satisfait? Ou est-ce que vous disiez, Seigneur, augmente ma foi? Tu me poses la question, où est votre foi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous vous rendez compte comment Jésus nous responsabilise? Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus n'a pas dit, ah, vous avez bien fait de me réveiller. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Est-ce qu'il aurait pu le dire? Simplement. Oui. Oui, il aurait pu. En plus, ça aurait été correct. Non. Il leur montre que dans une tempête, quelle qu'elle soit, à partir du moment où Jésus est avec nous dans la volonté de Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, cette tempête, tu la calmes. Il n'y a pas besoin de crier, d'hurler. Seigneur, tu calmes la tempête. Montre-moi ce que je dois faire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous sortir instantanément d'une tempête? Est-ce que vous le croyez? Eh oui. Dieu peut la faire traîner, c'est vrai. Dieu peut l'arrêter instantanément. Lorsque Paul allait à Rome, il y a eu une tempête. Pendant 14 jours, ils n'ont pas vu le soleil. C'est long pendant 14 jours de ne pas voir le soleil. Spirituellement, ça représente beaucoup de choses. Mais Dieu, Dieu les a bénis. Le navire a explosé complètement, mais eux non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que les moyens que Dieu utilise, il peut les détruire, mais ses enfants, il les garde. Un bâtiment, c'est une chose, vous voyez, mais le cœur, nos cœurs, c'est autre chose. Et Dieu nous garde, mes frères et sœurs. Cette foi, il faut qu'elle grandisse. Quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais être un vainqueur? Parce que c'est pas Dieu qui a choisi, c'est vous qui choisissez. Qui veut être un vainqueur? Moi, je lève la main quand même. Qui veut être vraiment un vainqueur? Ça dépend que de vous. Ça dépend que de toi, de dire, mais je veux absolument bannir le doute de mon cœur. Car celui qui doute, qui ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est écrit où ça? Dans l'épître de Jacques. Que celui qui doute ne s'imagine pas. Un homme ne doit pas douter. Ne doutez pas. Ce n'est pas une question de convenance personnelle. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Tu sauveras mes enfants. Tu les sauveras. Est-ce que Dieu peut sauver tous vos enfants? Là, vous savez, les convictions de péché, c'est lui qui les fait. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui convainc de justice. C'est lui qui convainc de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Justement, on devrait être convaincu que le Seigneur est tout puissant. Parce que le diable, il a été jugé au calvaire. Et que nous devrions vivre dans la victoire quand je vois la quantité de chrétiens qui mettent à égalité Dieu et le diable. C'est scandaleux. Franchement, vous pensez que Dieu est le pendant du diable? Moi, je pense que Dieu est quand même un peu plus au-dessus. Et que nous devrions vraiment, mes frères et sœurs, dire, qu'est-ce que tu dis, au fait? Qu'est-ce que tu me demandes? Eh bien, je te demande de demander. C'est pas Jésus qui a dit, et moi, je vous dis, demandez, et vous recevrez. Mais, non, mais, frères et sœurs, vous allez me dire que je suis simple. Demandez, et vous recevrez. C'est Jésus qui l'a dit. Et moi, je vous dis, c'est pas Gérard. C'est Jésus quand il dit, et moi, je vous dis, c'est parce que il faut bien comprendre d'où ça vient. Le Seigneur du ciel et de la terre ce matin te dit, demande-moi et tu recevras. Prie avec ta femme, prie avec ton mari, mettez-vous à genoux s'il vous faut dans la cuisine ou dans la salle à manger ou dans le jardin, n'importe où, mais mettez-vous de nouveau à genoux. Il y a des, moi, combien, on me le dit souvent, moi je prie jamais avec mon mari. Franchement, c'est une grâce d'avoir un conjoint chrétien. Oui ou non? Madame Bourdel, vous aimeriez pas prier avec votre mari? Madame Loupiac, et je pourrais continuer la liste. Vous aimeriez pas? Madame Bourdel. Eh bien, voyez, alors j'ai un mari chrétien, j'ai une femme chrétienne, et je me fais piéger par un emploi du temps complètement aléatoire. Je peux pas trouver 5 minutes, 10 minutes pour prendre la main de ma femme. On va prier pour nos enfants. Vous avez là l'image de ce combat. Oui, Amalek, je peux vous dire qu'Amalek, il existe toujours. Le diable, il fait toujours son œuvre. Il fait toujours son œuvre pour nous empêcher d'avoir des harons et des hurs qui viennent nous soutenir. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui rétrogradent. Mais j'en ai marre, je suis crevé, je suis tout seul, je me suis isolé. Eh bien, reprenez le chemin. Reprenez le chemin de la communion fraternelle. Oui, je vais avoir une foi. Et ma foi, de toute façon, je vais travailler de telle sorte que je vais faire en sorte, oui, que la maison du Seigneur redevienne une maison de prière. Vous allez voir si Dieu va pas vous bénir. Mais en plus, c'est écrit. On l'a enseigné en boucle pendant des décennies depuis que Jésus est venu chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous le croyez ou vous le croyez pas? Eh bien, pourquoi on le fait pas? Si je vous pose la question, est-ce que vous croyez à la prière? Tout le monde va dire oui. Qui c'est qui dit non? Levez la main. Bon. Si je vous dis, est-ce que vous croyez à la puissance de la prière? Tout le monde va dire oui. Alors, comment ça se fait que tu pries pas? Ou que tu pries si peu. J'ai pas toujours des questions à propos, mais celle-là, elle est à propos. Comment ça se fait alors que ta vie de prière est superficielle alors que tu as répondu oui à ma question? Parce qu'il y a un combat. Parce qu'il y a un combat, c'est pas. Ne vous sentez pas diminué. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat. Je vous avais raconté l'histoire de ce frère qui est parti d'ici et qui me dit, oh, vivement que j'arrive à la retraite, j'aurai du temps pour chercher Dieu, j'aurai du temps pour prier. Et quand il a pris la retraite, 6 mois après, il me dit, monsieur Gau, vous allez rire. J'ai encore moins de temps qu'avant. Et ça ne m'a pas fait rire du tout. Ça ne m'a pas fait rire du tout. Il avait 8 heures de plus par jour, il avait encore moins de temps à prier. Ça vous montre bien qu'il y a un combat. Alors on peut rire, on peut sourire, ce que vous voudrez. Mais quand on a 8 heures de plus par jour et qu'on ne trouve pas 1/2 heure pour prier, c'est qu'il y a quand même un truc qui s'est passé. C'est qu'il y a un combat. Oui, il y a un combat. Il y a un combat, mais vous pouvez faire une expérience. Et de la même manière que Moïse a bâti un autel, l'autel nous parle de la croix, toujours dans l'Ancien Testament. Quand vous voyez le mot autel, vous pouvez mettre le mot croix à la place, c'est la même chose. Moïse a bâti un autel et il appelait cet autel l'Éternel ma bannière, parce que Dieu combattait pour lui. Il a fait une expérience extraordinaire. Vous croyez que Dieu a fait grâce à Moïse et qu'à vous, il va vous mettre de côté? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de favoritisme. Si vous vous tenez devant Dieu et si vous dites, tiens, Jérôme, priez pour moi, monsieur de Dieu, priez pour moi. Je sais qu'ils vont le faire. Je sais qu'ils vont le faire. Si je demande à certains frères, je sais qu'ils le feront. Et ils me soutiendront. Et on expérimentera la même affaire. Et on expérimentera cette faveur. Comment on est assez aveuglé pour laisser le diable nous voler? En parlant d'Amalek, je pense à, dans les Juges, au chapitre, quand Dieu a appelé Gédéon, il nous est dit que quand Israël semait, Amalek venait et prenait tout ce qu'ils avaient semé. On va le lire. C'est dans les Juges. Alors, c'est l'appel de Gédéon, ça doit être 6. Juges, chapitre, je pense que c'est 6. Juges chapitre 6, regardez comment ça se passe lorsqu'on fait ce qui déplaît à Dieu. Parce que ce livre, méditez-le ce livre, c'est un livre qui vous montre comment Dieu soulève des hommes et ça vous montre comment le peuple revient au péché. Juges chapitre 6, verset 1er. C'est un merveilleux livre ce livre des Juges. Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà, c'est quand on ne fait pas ce qui plaît à Dieu... Regardez, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous voyez, une épreuve, ça peut durer 7 jours, 40, parce que c'est souvent le chiffre, ça peut durer 7 ans, ou plus, ou 20, ou 50. La main de Madian fut puissante contre Israël. Je vous rappelle que c'est Dieu qui a fortifié la main de l'ennemi. À méditer. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que ce verset. Vous voyez l'indication. Vous vous rendez compte, ils étaient chez eux, et eux se retiraient dans les cavernes. Mais vous savez, l'Église, est-ce qu'elle a sa place sur la terre, l'Église? Est-ce qu'elle est chez elle, l'Église? Et oui, on a notre place sur la terre, tant que Jésus ne l'a pas enlevée. Nous avons notre place sur la terre. Combien de chrétiens fuient, se cachent, ont peur, se retirent? Exactement pareil. Quand on n'est pas dans la grâce de Dieu, on se retire. Et les images sont fortes. Hein, les cavernes, les ravins, les montagnes, les cavernes... Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Vous voyez, Amalek, on le revoit souvent. Pourtant, il a été exterminé, mais il revient. Pourquoi? Parce que c'est l'image du diable. Et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vrivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Le résultat, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Après, il y a une bénédiction, parce que Dieu va trouver le fameux Gédéon qui va relever le défi, amener la bénédiction sur le pays. Mais voyez, Israël fut très malheureux. Combien de chrétiens sont très malheureux? C'est un combat intérieur, ils aiment Dieu, et en même temps, ils sont très malheureux. Eh bien, parce qu'Amalek, il fait son boulot. Il fait son boulot de détruire, de voler, de prendre, de ravager, de nous enfermer, qu'on se retire, qu'on soit sclérosé dans nos cavernes, cachés, dans la peur, alors que les chrétiens, ils sont chez eux, sur la terre. Vous rappelez Goliath qui disait sans cesse, vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas chez vous. C'était exactement l'inverse. Il le croyait. Mes frères et sœurs, l'Église, elle a sa place. Tant qu'elle n'est pas enlevée, elle a sa place. Vous avez votre place. Vous pouvez exercer la foi. Vous pouvez faire des expériences avec Dieu. Vous pouvez vous lever et dire « Oui, je veux une foi qui bénit les autres. » Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez envie d'une foi qui fasse du bien aux autres? Vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont décourageants? Ils sont décourageants parce qu'ils sont découragés. C'est ce que je dis, moi, meneur de chant. Je leur dis, soyez convaincus. Parce que si vous n'êtes pas convaincus quand vous faites chanter, vous n'allez pas être convaincant. Et quand on n'est pas convaincu, eh bien, on n'est pas convaincant. Quand on est découragé, on peut faire le malin tant qu'on voudra, eh bien, on ne fait que décourager les autres. Oui ou non? Et mes frères et sœurs, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de notre communion avec Dieu. Je veux avoir cette vraie piété. Pas l'apparence. Un des signes de la fin des temps, c'est ils auront l'apparence de la piété. C'est un des signes. Ça a été prophétisé, c'est une prophétie. Et il parle aux chrétiens. Ils auront l'apparence de la piété. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ça, ça on devrait quand même réagir à ces trucs. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété et ils renieront ce qui en fait la force. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Ce qui fait la force de la piété, c'est pas l'agitation. Ce qui fait la force de la piété, c'est la repentance et la sainteté. Ce matin, les quatre dons spirituels ont exhorté quelqu'un à se repentir. Moi, je vous encourage à le faire parce que franchement, ça va aller mal. Pour vous, vous allez être très malheureux. La piété. Parce que sans la sanctification, c'est clair en plus. Le verdict est terrible. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul. Ça veut dire que nos enfants, une personne, ça veut dire. Nul, ça veut dire personne, ni les pasteurs, ni les anciens, ni les jeunes, ni les vieux. Personne verra le Seigneur. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut, mes frères et sœurs? Ou est-ce que vous ne voulez pas plutôt que tout le monde voit le Seigneur? La sanctification, elle est un des symptômes de la vraie piété. La repentance, elle est également une vraie piété. Je me repens. Seigneur, vraiment, pas du petit regret du bout. Oh, pardon. Non, non. Seigneur, je me corrige, je change de cap, je veux une foi vivante. Si tu poses la question, c'est une question pleine d'amour, pleine de sévérité peut-être, mais qu'importe. C'est une question que Dieu pose, elle vient du ciel. C'est Jésus qui la pose. Quand tu reviendras, même s'il y a des injustices, même si j'ai subi des injustices dans mon boulot, dans mon église, dans ma famille, dans mon foyer, qu'importe. Dieu s'occupera de toutes les injustices. Dieu fera justice à ses élus. Oui ou non? Vous ne tracassez pas. Si vous ne vous en occupez pas, Dieu s'en occupera. Expérimentez-le. Au moins, commencez à faire une expérience une fois, plutôt que de vous débattre, de dire oui, et ceci, et mon père, et ma mère, et j'ai vécu ci, et j'ai vécu ça, et vous comprenez pas, moi, ce que je vis dans mon boulot. Mais écoutez, mais vous croyez pas que Dieu peut s'occuper de tout? Mais vous le croyez ou vous le croyez pas? Dieu fera justice à ses élus. Si c'est ici-bas, ben, c'est bien. Et si c'est pas ici-bas, laissez-moi vous dire que Dieu fera justice à ses élus au jour du jugement. Vous le croyez? Mais écoutez-moi, frère et sœur, c'est écrit. Si vous ne le croyez pas, c'est vous que vous doutez et vous allez vous enfermer encore une fois dans ce cursus de misère, de malheur. Israël fut très malheureux. Alors mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez une foi qui grandisse? Une foi qui fait reculer les ténèbres, une foi qui fait reculer les démons, une foi qui va faire que l'église sera une belle maison de prière. Je vais travailler à ça. Il y a quelqu'un qui veut travailler à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler à cela? Avec joie, dire, mais moi je veux terminer ma course debout. Avec les Aaron, les Hur, les Myriam et toutes ces braves sœurs auprès de moi. Il y a quelqu'un qui veut? Eh bien, on va lui demander. Vous savez, je le répète, moi je vous dis, demandez. Moi, je vous dis, c'est Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Il nous dit, m'arrête. Moi, je te dis, demande. On va fermer les yeux. On pourrait peut-être même se lever. Vous êtes d'accord? Qu'on l'honore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer le Seigneur ce matin? Honorer sa parole. Moi, je te dis, dit le Seigneur, demande et tu recevras. Notre Père, notre Dieu, merci pour le jour où tu as permis que ta parole soit traduite en français. Merci vraiment. Merci de nous avoir donné les moyens de nous acheter une Bible, Seigneur. Merci. Merci pour le jour où tu t'es présenté sur notre chemin, où tu nous as arrêtés. Quel bonheur, Seigneur. Même si nous ne le comprenions pas, aujourd'hui nous sommes heureux de le comprendre. Merci pour ce jour où tu t'es présenté. Merci pour le jour où nous avons compris la croix. Seigneur, tu poses des questions et nous voulons avoir cette foi vivante qui construira l'Église. Cette foi vivante qui fera que des vainqueurs seront dans l'Assemblée, qu'une multitude de vainqueurs sera le partage de cette Église. Oui, nous te prions pour les anciens, que des évêques se lèvent, que des diacres, des diaconesses, que des pasteurs, des épouses de pasteurs. Seigneur, nous voulons terminer la course dans la victoire. Nous voulons tous avoir le même témoignage que l'apôtre Paul, d'avoir terminé la course, d'avoir gardé la foi. Seigneur, merci pour cette matinée. Bénis cet après-midi, les prochaines réunions de formation, les réunions de prière, les réunions d'évangélisation. Seigneur, aide-moi également à apporter cette étude sur le mystère de l'Église, sur le corps de Christ, afin que tous nous soyons comme les membres de notre corps qui reçoivent cette vie, ce sang nécessaire pour être en bénédiction aux autres. Seigneur, merci pour cette journée. Que ton nom soit béni. Amen.